Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Quatre radios occitanes contribuent aujourd'hui au carnet de région. Radio Bartas s'est intéressée à l'école de Saint-Frézal, où le directeur interroge les enfants sur leur recherche d'identité rurale. Radio Larzac rend compte du travail de Julien Aigoui, chef cuisinier de la cuisine centrale de Millau, pour qui la qualité de l'assiette est prioritaire. RCF Maguelone fait un focus sur l'éco-pâturage, une forme d'énergie renouvelable. Et Radio Pays de l'Hérault, RPH, nous rappelle cette affaire d'État de 2009, l'affaire du corbeau de Saint-Pons-de-Thomières. Nous écoutons maintenant ce sujet de Radio Pays de l'Hérault.
Saint-Pons-de-Thomières, à peine 2000 habitants et trois lieux incontournables, sa cathédrale, son abbaye et son bar-tabac, la Cigale, lieu de rendez-vous des villageois, mais surtout d'une mystérieuse bande, la Cellule 34.
Le 2 septembre 2009, il y a 150 policiers qui ont débarqué à 6h du matin dans Saint-Pons et qui ont perquisitionné 31 personnes.
Pierre Blondeau, ou Pierrot comme on l'appelle là-bas, est le patron de l'établissement.
On a ciblé la Cigale. Pourquoi ? Parce qu'on dérangeait les politiques locaux. Et comme la seule chose qui était sûre, c'est que ça venait de l'Hérault.
Tout part d'une lettre de menace contenant des balles 9 mm envoyées directement au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, mais aussi à d'autres personnalités politiques du moment.
Il y a eu une quarantaine de lettres qui avaient été envoyées de menaces de mort. D'abord à Coudert, maire de Béziers, à Roque, maire de la Manou-les-Bains, et ensuite à toute la famille de Sarkozy, son père, son fils, l'entourage propre de Sarkozy.
La police est à cran, mais qui se cache derrière ces provocations ? Les soupçons se portent rapidement sur les habitués de la Cigale, militants d'extrême gauche anti-système comme Max. Il joue son propre rôle dans le film.
Bien avant l'affaire du corbeau, il y avait donc l'histoire de la décharge, et là ça a rassemblé énormément de monde. Il y a même plein de gens qui venaient de Béziers, de tous les alentours, et il y a eu une belle bataille, quoi, et d'ailleurs on a gagné contre cette méga décharge. On n'est pas des acteurs, on est des protagonistes. Le réalisateur a filmé vraiment les moments de vie.
Chasseur de corbeaux, bande de flics parigots, vous avez semé la terreur dans notre vallée et dans nos cœurs.
Suite à l'affaire du corbeau, bon, moi évidemment j'ai été touché, enfin, comme beaucoup de monde. Et puis j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Rafle à Saint-Pons », parce que c'est vraiment une rafle.
Des centaines de policiers et des gendarmes débarquent à Saint-Pons, la brigade antiterroriste s'en mêle, les interpellations s'enchaînent, le village est sans dessus-dessous. Pierrot, avec 9 autres compères, passe 72 heures en garde à vue. Faute de preuves, ils sont tous relâchés. C'est un fiasco pour les autorités.
Qu'on soit soupçonnable ou soupçonné, pourquoi pas, mais surtout ce qui était inadmissible, c'est qu'on n'a toujours aucune explication. Mais la police, on a des rapports maintenant tout à fait courtois, mais ils m'appellent très souvent quand même dès qu'il y a quelque chose. C'est un peu comme dans les années 70, on disait, il se passait quelque chose en France, on dit, on va aller voir Alain Delon, lui poser la question. Maintenant, dans les hauts cantons, on dit, on va aller voir Blondeau.
8 années plus tard, le film ravive les discussions autour de l'affaire du corbeau de Saint-Pons. Pierrot, lui, continue son combat et garde toujours une place au comptoir pour les habitués de la Cigale.
Vous qui cherchiez un oiseau sombre, vous n'avez pris que des lumières.
Merci à Sarah Gilman de RPH Radio Pays de l'Hérault. Place maintenant à Radio Bartas pour ce reportage sur l'école Saint-Frézal, dont le directeur s'intéresse à l'environnement rural des enfants. Un questionnement sur l'identité.
La première chose qui peut être importante en forêt, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'est une forêt. Mais ça, je suppose que vous avez tous une petite idée. Pour vous, c'est quoi une forêt ?
Ben, c'est ça là-haut.
Dans une forêt, il y a quoi? En premier lieu.
Ben, des arbres.
Il y a des arbres. Dès qu'il y a des arbres, on est dans une forêt?
Non.
Ah.
Une hêtraie.
Une hêtraie, c'est ça. Ça, c'est quand on a des forêts avec un seul type d'arbre qui domine. Mais le plus souvent, une forêt qui a poussé un peu spontanément, qu'on n'a pas du tout planté, et hop, ça sort tout seul. Vous avez plein d'arbres, vous n'avez pas qu'une espèce. Et là, la première animation, ce matin, on va essayer de découvrir toute cette diversité d'arbres qu'il y a dans nos forêts. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, il y en a quand même pas mal. On va essayer de ramasser 5 rameaux d'arbres différents, c'est-à-dire qui appartiennent à des espèces différentes. On y va. Mais pas chacun, là. Vous travaillez ensemble. Okay.
Mais vas-y, mais on le garde dans la main parce que dans les poches et tout, il va se traver.
Ouais. Par contre, là, c'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui le garde.
C'est un chêne vert.
Ouais.
Donc t'as pris un. C'est un rameau, ça?
Je sais pas. Mais je crois qu'il a une maladie, non? Regarde.
Si, bah quand même.
Alors, on est à l'école de Saint-Frézal de Ventalon. Je suis avec le directeur de l'école qui nous accompagne pour cette randonnée. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu ce projet?
Le but, c'était qu'ils comprennent un petit peu leur environnement proche. Parce que la plupart d'entre eux, n'ont pas de leur racine familiale en Cévennes. Donc, j'avais choisi un itinéraire près de l'école qui fasse une boucle. On l'a réalisé avec une cantinière qui, elle, est d'ici, là, ses racines cévenoles. Et en cheminant comme ça, soit eux-mêmes avaient des questions, se posaient des questions sur ce qu'ils voyaient, ou moi, je leur posais des questions sur pourquoi est-ce qu'on voit ici un pont, pourquoi ici il y a une ruine, qui pouvait bien habiter là, etc. Donc les thèmes, on va dire, qui ont été un petit peu évoqués, c'était un petit peu l'exode rural, en fait, par rapport aux ruines qui se sont retrouvées là. Des thèmes sur l'agriculture un petit peu, la châtaignerie, l'élevage du mouton, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire des moutons. Aussi la présence de beaucoup de murs en pierre sèche. Donc à la fois pourquoi est-ce qu'ils ont été bâtis, comment ils ont été bâtis. Et la construction des voûtes, parce qu'on a la chance d'avoir les artisans en bâtiment en pierre sèche, bâtisseurs en pierre sèche. Donc là on a profité pour essayer aussi de comprendre comment une voûte, comment on la construit et pourquoi ça tient. Et aujourd'hui, on est aussi sur une intervention, on va découvrir un petit peu la forêt, comment sont nos forêts.
Alors j'ai vu qu'il y avait un accompagnant qui fait partie du parc national des Cévennes. Alors pourquoi il intervient dans cette promenade découverte?
Donc voilà, Eric, il est là mais pour apporter déjà toutes les connaissances qu'il a et que moi je n'ai pas, je suis loin d'être un spécialiste. Et il va pouvoir aussi amener comme ça les enfants petit à petit à réfléchir, à se poser des questions et à découvrir un petit peu toute la richesse qu'on va retrouver dans notre environnement. Beaucoup de choses peuvent se faire comme ça avec le parc national des Cévennes.
On va dire que c'est une promenade pédagogique, mais j'ai entendu parler de flash code.
Le but pour que les élèves soient un petit peu motivés, c'est que tout le travail fourni, il faut qu'à un moment, ils puissent servir à quelque chose, il faut qu'il y ait un but derrière. Donc cette randonnée que nous avons réalisée il y a quasiment 2 ans, on va l'aménager en disposant des petits flash codes ou QR codes qui vont renvoyer sur Internet, sur les vidéos qu'auront réalisées les enfants, sur toutes les connaissances qui seront accumulées pendant ces 2 ans.
Alors si on a un intervenant du parc national des Cévennes, ce n'est pas pour rien, je crois que ça a été une initiative qui a été récompensée.
Au cours des interventions de personnes ressources qui sont venues à l'école, notamment des gardes-moniteurs du parc national, c'était Laurent Bellier, il m'avait informé que mon projet pourrait tout à fait rentrer dans le cadre des trophées du parc national des Cévennes sur la biodiversité et sur notamment le thème de l'an dernier, c'était les hommes et les paysages. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il a été primé, qu'il a reçu le trophée du parc national des Cévennes.
Et vous êtes une école particulière, je crois que j'ai vu que vous êtes labellisé.
L'environnement, en fait, nous sert comme thème, comme fil rouge, chacun. On essaie de trouver un projet phare qui va se dérouler tout au long de l'année. Voilà, mais c'est vrai qu'on a eu déjà d'autres labels, Éco-École notamment, ou le label 3D de l'Académie de Montpellier.
Soit le maître nous a posé des questions, soit nous on lui a posé des questions. Et en classe, il y a des intervenants où on est allé voir des gens ils nous ont répondu aux questions. Et après, on a fait des genres de vidéos pour expliquer aux gens. Et après, on va encore faire la randonnée. Par exemple, on a vu un pont et du coup, on va mettre, je pense ici, on va mettre un panneau avec un QR code, c'est ça ? Sur comment elles tiennent les voûtes.
Au revoir Radio Bartas.
Merci à Radio Bartas. Radio Larzac a l'esprit gourmand et invite le chef cuisinier Julien Aigouy de la cuisine centrale de Millau à partager son goût des bonnes choses.
Julien Aigouy, 38 ans, est le responsable de la cuisine centrale de Millau depuis 2011. Cet ancien second du château de Cressel nous explique comment il s'attache à éduquer les enfants à avoir une alimentation saine, notamment grâce au bio dans les cantines maternelles et primaires.
Bien manger, c'est important, mais leur faire montrer comment nous on travaille et ce que l'on travaille, il me semble que c'est important. Parce que les enfants, quand ils sont à la cantine, ils voient leur barquette arriver et souvent ils disent « Ah, c'est des barquettes, c'est quoi ?» Voilà. Non, les barquettes, oui, parce qu'on est obligé d'avoir des barquettes en liaison froide. Par contre, tout est cuisiné. Vous avez vu, la purée, elle peut être dans la barquette, elle a été cuisinée. Donc l'important, c'est de montrer aux enfants qu'il y a des cuisiniers qui se lèvent tôt le matin et qui, pendant toute la journée, leur préparent le repas. Donc c'est important de leur dire, regardez, ils travaillent pour vous, donc mangez ce qu'ils vous ont préparé. Et après, on fait, il y a double enjeu, c'est que je fais des visites pédagogiques, bien souvent j'essaye de joindre avec un petit producteur local, comme le gars avec Devals, qui est le producteur de lentilles, il y a 5 minutes, on va visiter le champ de lentilles, on fait un petit déjeuner à la cuisine avec des jus de fruits, de local, tout ça, et je leur fais visiter la cuisine. Et je leur montre que les lentilles, elles sont dans un seau, la lentille bio du viaduc, et que nous, on les leur cuisine. Voilà l'important. Moi, je suis arrivé en 2011 ici, donc voilà, il a fallu restructurer un peu tout ça, parce qu'avant de mettre de la qualité, il fallait que tout soit bien structuré. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas mettre de la qualité si on n'est pas structuré dans la cuisine, parce qu'il y a un coût, il y a un machin. Donc on a travaillé sur tous les postes pour arriver à introduire petit à petit de la qualité. Et on n'a pas dit aujourd'hui on met 20% de bio, non. On a dit on va y aller petit à petit, chaque année on va introduire des nouveaux produits de qualité, des produits bio, des produits locaux et aussi du fait maison. Parce que la purée, elle n'est pas bio, mais elle est fait maison. Donc en fait, ici, à la base, on est arrivé, c'était ce que moi, on m'avait demandé, c'est réenchanter les cantines. Donc quand on arrive, qu'il y a des boîtes de conserve, qu'on ne cuisine pas et qu'on a du personnel qualifié et qui a envie de le faire, c'était dommage. Donc du coup, on a commencé par recuisiner tout ce qu'on pouvait, cuire les viandes, acheter des viandes locales, recuisiner local. Et petit à petit, on a introduit tout ça, le bio, le local. Au départ, j'avais l'image cantine, les petits pois pleins d'eau, là, pleins de jus, pardon, ouais. J'avais cette image de la cantine, je me suis dit, putain, on doit avoir un moyen de faire quelque chose, quoi. C'est ce qui m'a percuté. Alors, on sensibilise les enfants, on essaye avec l'élu, avec Estelle Balfron qui est élue à la cuisine, d'aller manger dans les restaurants scolaires, d'expliquer le projet, de faire venir le jardin du Chéran qui explique pourquoi un légume, comment ça pousse, voilà. On essaye vraiment de sensibiliser les enfants, parce que le projet, il est bien, mais il faut expliquer aussi. Donc voilà, tout à l'heure je m'en vais sur Nîmes parce que je fais partie d'un réseau où un plus bio, une association, défend les valeurs des produits bio, des produits de qualité, le fait maison. Et donc ils font une tournée de France des cantines rebelles. C'est-à-dire qu'ils se posent dans une ville et ils convient les gens qui essaient de travailler le bon et machin. Et on se rebelle pour dire non, on ne veut pas que dans les cantines il y ait des produits de mauvaise qualité, non, on ne veut pas que des boîtes de conserve. Voilà. On essaye de mobiliser les gens.
Justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'en France, on mange que des produits bio dans les cantines, qu'on mange que des produits locaux et...
Alors, moi, je ne suis pas un partisan du 100% produit bio. Après, justement, je pense qu'il faut travailler par étapes. Quand je travaille un produit bio, je veux qu'il soit bio toute l'année. Parce que je connais beaucoup de monde qui dit « Ouais, aujourd'hui, j'ai un menu 100% bio. Ouais, c'est bien. Mais le lendemain, il a un menu 100% dégueulasse. Ouais. » Donc, c'est... Non. Après, voilà, moi, j'essaye d'être crédible dans ce que je fais. Donc, le yaourt nature que vous avez vu là, il n'y aura jamais un yaourt nature pas bio. Il sera bio toute l'année. Deuxième chose, les circuits courts, je crois que c'est important que nous, les collectivités, on travaille avec nos petits producteurs locaux. Alors après, oui, c'est difficile de travailler avec les producteurs locaux. Pourquoi ? Parce qu'on a des volumes, on a des marchés publics, on a plein de choses qui sont contraignantes pour eux. Par contre, avec de la pédagogie, on arrive. Nous, les marchés publics, on incite les producteurs à se rapprocher de notre service, on est là pour les aider, les accompagner, leur expliquer ce qu'il faut faire. C'est vrai, il y a du papier. Les volumes, on peut travailler en amont. Moi, j'ai fait visiter la cuisine centrale à des producteurs. Voilà pourquoi je vous demande que les carottes ne soient pas comme ça. Que je vous demande qu'elles soient un peu comme ça. Parce que 300 kg de carottes qui passent à la machine, on les repasse un peu, mais on ne peut pas toutes les passer à la main. Donc voilà, à partir de là, on arrive à trouver nos contraintes et je leur dis, moi, je veux bien payer le prix un peu plus cher, mais vous, il vous faut faire quand même un petit effort parce que j'ai du volume. Donc, on arrive à faire des efforts, chacun de notre côté. Et à partir de là, on fait un plan ou un calendrier, 6 mois, 1 an, et je leur dis, voilà, moi, au mois de juin, je sais que je vais vous faire 2 services de salade verte.
Julien et la cuisine centrale ne s'occupent pas seulement des enfants, puisqu'ils offrent aussi un service de livraison de repas aux personnes âgées 4 jours par semaine.
Merci à Radio Larzac. RCF Maguelone nous présente maintenant tous les avantages de l'éco-pâturage en ville.
Un coin de ferme en plein Montpellier, moutons, chèvres, poney et chiens ont pris place au Mas Nouguier pour s'en occuper Aurore, jeune bergère.
Ici, ça sera mettre des animaux en fait en éco-pâturage pour qu'ils broutent l'herbe, ce qui va faire une approche plus écologique. En même temps, en ville, on n'a pas l'habitude de voir des animaux.
Mais le calme du pâturage est bientôt rompu par des dizaines d'enfants de l'école primaire Beethoven de Montpellier. La proximité de l'école avec le Mas Nouguier, une aubaine pour sa directrice Isabelle Perrerin.
Ça va nous permettre de faire plusieurs visites. C'est-à-dire que là, on vient le premier jour, on voit où en est l'herbe, et puis après, ils vont revenir pour voir au fur et à mesure le travail des animaux.
Pour l'instant, on leur est aux premières caresses, c'est la démonstration d'un exercice de chien de berger.
Je vais demander au chien d'aller de l'autre côté du troupeau.
Une sortie réussie pour la maîtresse Alexandra Joannan.
J'aime beaucoup le contact avec les animaux, puis le contact avec la nature. On voit qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de plaisir.
Et ce n'est pas Jeanne et Léna qui vont dire le contraire.
J'ai vu des chèvres et c'est la première fois. Ça fait un peu peur.
Pour l'instant, l'herbe est encore verte, mais d'ici 4 mois, tout aura disparu.
C'est avec RCF Maguelone que nous terminons ce carnet de région Occitan. Un carnet qui réunit les reportages de RPH Radio Pays de l'Hérault, Radio Barthas, Radio Larzac et RCF Maguelone. Au revoir.
Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.